Bonus.
Trax.
Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors c'est parti pour un voyage infiltré aujourd'hui entre filles dans une société d'avant la distorsion. Engage.
Make that one.
We're going on a little undercover mission.
Last.
Post-scarce society throwing out all their jewels and crap.
What a party.
Everything.
Oh yeah, that's the stuff.
This isn't the end of a story, it's the beginning.
Star Trek, Lower Decks.
You fraternize with Starfleet humans? Fuck!
Working.
Et bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul. C'est sûrement la plus grande fan autoproclamée de Lower Decks. Elle est là avec nous, c'est Léa. Salut Léa.
Salut. Je pense que c'est pas juste trop autoproclamé, hein. Je pense que c'est avéré. Voilà.
D'accord. Elle passait par là et on est bien content qu'elle ait rejoint le mess des officiers, c'est Marie-Paul. Salut Marie-Paul, comment ça va?
Salut tout le monde, ça va et vous?
Ça va bien.
Ouais, ça va. Hein.
Alors avant de commencer, je voudrais faire un petit point Blue Sky pour vous dire que bah, moi je vais poster de moins en moins sur le Twitter du Cadran Pop et quasiment tout exclusivement sur Blue Sky très bientôt et que je vais même supprimer mon compte personnel Guigui. Ou c'était plutôt @BertrandKeufter. Donc je vais le supprimer purement et simplement et je serai intégralement sur Blue Sky. Et sachez que sur Blue Sky, eh bien, tout l'équipage du Cadran Pop est là et que c'est vachement bien comme réseau social. Il y a même des kits de démarrage où vous pouvez du coup vous refaire votre communauté assez facilement. Par exemple, Marie-Paul, elle a créé un kit de démarrage rassemblant l'ensemble des fans, des trekkies francophones qu'on connaît. Hein, et puis c'est une liste qui va s'ajouter au fur et à mesure du temps. Et c'est par exemple, avec un seul bouton, vous pouvez du coup suivre tout le monde d'un coup. Et pareil pour le Cadran Pop, j'ai fait la même chose, mais pour Star Trek d'une manière plus globale. Donc du coup, il y a ceux qui regardent Star Trek et aussi ceux qui font Star Trek. Donc il y a aussi beaucoup de comptes américains. Et donc voilà, il y a ce genre de liste. Ça existe dans plein de domaines, fait par plein de gens différents. Et donc c'est un réseau social qui est vraiment très très sympathique. Et c'est le Twitter d'il y a 15 ans.
Arrêtez de dire que c'est le Twitter. C'est un nouveau réseau social qui est super et on sent bien, même si. Beaucoup de gens, il y a des gros trolls qui arrivent là depuis ces derniers jours, et il y a même des gens d'extrême droite, mais on est quand même.
Ah, j'ai
bien.
Rien vu moi.
Et ouais, mais en fait, l'avantage de ces listes, justement, c'est qu'on peut aussi s'en servir pour bloquer des listes de gens directement, et donc t'es vachement plus tranquille. C'est vachement plus simple aussi de bloquer des gens, et t'es beaucoup plus peinard, et tu vois beaucoup moins de merde passer. Alors là, ils viennent de changer. La manière dont on voit les réponses dans les flux. Donc je ne sais pas trop s'ils vont passer en mode algorithme comme c'était sur Twitter, j'imagine que si. Mais en attendant, ça fait du bien d'être sur un réseau social où tu peux discuter, tu es tranquille et t'es pas, y a pas de pub encore.
Alors pourquoi je dis que c'est le Twitter d'il y a 15 ans? C'est parce que c'est quasiment la même interface avec des fonctionnalités qui sont assez proches, même s'il y a quand même pas mal de différences. Et donc du coup, les gens qui ont l'habitude de Twitter, surtout s'ils y sont depuis longtemps, bah, ils ne seront pas du tout dépaysés. Et encore, c'est normal parce que ça a été créé en partie par des gens qui avaient créé Twitter à la base. Et d'après ce que j'ai compris, même le terme Blue Sky, c'était une idée de nom de Twitter avant Twitter vraiment. Donc
c'est
la source, quoi.
Trop marrant.
Bon, en tout cas, c'est reposant, je trouve.
Ah mais non, mais c'est incroyable. Moi, ça fait depuis là que ça explose. Là, par exemple, j'ai quasiment reconstitué mon audience en 2-3 semaines. Et, parce que ça s'est accéléré, oui, il y a de plus en plus de monde. Et effectivement, zéro prise de tête, que du fun. Et je retourne sur ce Twitter 5 minutes et je suis tout énervé. Donc oui, effectivement. Enfin voilà, rejoignez-nous là-bas, c'est vraiment sympa. En plus de notre Discord du Cadran Pop, du coup ça fait vraiment, on a une communauté qui est assez, assez solide. Donc voilà, c'était le petit point réseau social. Alors du coup, on va parler de Lower Decks, mais pas que de l'épisode du jour, parce que Léa, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, c'était la dernière fois qu'on t'a vu, c'était l'année dernière, pour nous parler justement de Lower Decks saison 4. Donc là maintenant c'est la saison 5, on est à l'épisode 7. Qu'est-ce que tu as pensé des 6 premiers épisodes, sachant que tu les as quasiment tous bingés? Alors là, j'étais vraiment étonnée en fait que t'aies pas suivi les épisodes semaine par semaine, parce que je sais que t'es vraiment une grande fan. Et là, pour participer au podcast ce soir, t'as tout bingé, quoi, de l'épisode 2 à 6, je crois.
Oui, c'est ça. Enfin, de la moitié de l'épisode 2, oui, jusqu'à l'épisode 6, parce que bon, il y a eu des changements dans ma vie et la personne qui partage ma vie n'avait pas commencé Lower Deck. Alors du coup, j'ai commencé à lui faire regarder et je lui ai dit. écoute, pour le 29, il faut qu'on ait fini et qu'on en soit à la saison 5, épisode 6. Et bah, il se trouve qu'on n'a pas du tout avancé. On en est à la saison 3. Et du coup, j'ai dû rattraper les épisodes parce que... Après, j'ai un peu procrastiné cette semaine parce que je savais qu'il fallait que je la regarde. Et je me suis dit, mince, je me suis fait ce matin en me disant, mince, mais c'est ce soir. Et du coup, j'ai tout regardé. Et la saison est super chouette. J'ai adoré le premier épisode, le deuxième, le troisième un peu moins. Mais alors les épisodes 4, 5, 6, ils étaient incroyables. L'épisode sur la base stellaire, j'ai adoré. Bah, en plus du coup, il était plein de références du vieux Star Trek de l'Enterprise avec les vieux bruits et tout parce que bah ils étaient arriérés en termes de technologie et il y avait les costumes de Uhura qui étaient dans... Ah, j'ai adoré. Et donc, c'était trop chouette. L'épisode d'après avec Oli, c'était trop sympa. Je vais commencer à la ship avec Mariner. Et puis, voilà. Mais j'imagine que certains d'entre vous aussi, même si j'ai pas pu encore rattraper vos podcasts, parce que, bah, voilà. Comme j'ai vu les épisodes tout à l'heure, j'ai pas eu le temps d'enchaîner les podcasts.
Ben, je pense que dans l'ensemble, c'est assez positif pour tout le monde, hein, moi y compris. Il y a juste Manu qui a quelques réserves par-ci par-là.
Le traitement de Céline est oui. Nul.
Bah, il est inexistant surtout.
Quoi ouais,
bah, c'est sans ça, bah, il est mieux là de cet épisode qu'on a vu hier, mais à part ça, le reste de la saison, elle est comme.
Mais
comme
je suis
le
pas
disait
d'accord.
Manu, l'actrice est toujours indiquée comme guest star et pas comme cast permanent, donc ça donne une idée du truc, quoi.
Bah, vous voyez, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que. En fait, c'est une Vulcaine, donc c'est compliqué de les faire évoluer super vite parce que. Bah...
Non, c'est pas ça, ah, c'est non, le fait
c'est
qu'elle
pas
soit
ça,
absente.
C'est... Elle est jamais là.
Ah, ouais, ouais.
C'est pas son évolution qu'on
Il y a deux épisodes où elle est clairement complètement absente et le troisième, eh ben, elle est là genre 10 secondes, quoi. Et en fait, c'est ça qu'on regrette.
Oui, bon, il y a celui, tout ce passage avec Rutherford quand elle répare. La navette et puis qu'ensuite elle la recasse à la fin, c'est je trouve elle était bien, mais oui c'est vrai que pour moi c'est un caractère, enfin c'est un personnage qui supporte les autres, mais je pense que ça va le faire. Elle est encore censée être juste invitée, hein. Elle a pas le vrai badge.
C'est vrai,
si
mais comme
permettre.
On aime le personnage, on aimerait l'avoir plus. C'est
bien
ça
sûr,
en fait.
Bien sûr,
le gros défaut de la saison, c'est ça. Donc si c'est ça le gros défaut de la saison, c'est que franchement ça va.
Ouais, c'est que la saison
elle est
okay,
l'épisode
quoi.
Avec les cubes et les sphères, je l'ai pas trouvé bien moi. Hein.
Ouais, celui de la semaine dernière.
C'était celui de la semaine dernière, ouais. C'était la résolution du truc était. Pff, voilà.
Mais moi ouais. Je l'avais compris dès le début la résolution.
Oui, moi aussi, mais c'est juste nul en fait.
Ah, moi ça m'a trop fait rire.
Non, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas.
Non, mais moi j'ai trop aimé surtout parce qu'il y avait Oli.
Oui, mais j'ai oublié la moitié de l'épisode, je crois, depuis que je l'ai vu.
Ouais, c'est vrai que moi aussi c'est l'épisode que j'ai le moins aimé, je crois, et c'est mais je l'ai déjà dit la semaine dernière, je vais pas trop me répéter, mais c'est surtout la partie avec Boimler que j'ai trouvé complètement débile et insupportable, quoi. Et en fait Boimler, c'est le point noir finalement de la saison quand je suis en train d'y réfléchir.
C'est vrai ?
Bah oui, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est complètement débile en fait. Je veux dire d'avoir il a chopé un pad. Et il essaye de, comme disait Manu les podcasts précédents, et je trouve que Manu a raison quand il dit ça, c'est que Boimler, il est censé être assez intelligent, etc. Et à la rigueur, il prend le pad de son Boimler de l'autre dimension, et tu te dis, bon, il peut s'en inspirer, quoi. Mais là, ce que Boimler essaie de faire, c'est de copier-coller chaque point de la vie du gars en faisant, il faut absolument que j'ai ce passage-là aussi, tu vois. C'est ridicule, quoi. Obtenir un pseudonyme particulier de la docteur et en plus il y parvient pas parce que finalement c'est pas le même pseudo et du coup c'est pas exactement la même relation qui va s'instaurer entre eux deux, mais du coup ouais tu vois ça a pas de sens, quoi.
Bah ça a du sens, ça a
moi,
du
je suis
sens
pas hyper d'accord
dans le fait que le personnage a de l'ambition mais a zéro confiance en lui et il voit que son Boimler alternatif est pas du tout un gars paumé comme il l'est et donc il se met bien en tête que c'est en lui ressemblant à 100% qu'il arrivera à réussir et à accomplir ce qu'il a envie de faire, quoi. Donc,
ouais, mais en accomplissant justement des choses qui sont superficielles en fait. C'est ça que je comprends pas, comment Boimler peut se dire que en feu.
Mais il est du père, le gars, quoi.
Mais en fait, moi, c'est déjà, je trouve ça marrant parce que Boimler, ça a toujours été le personnage que j'aime le moins. Et il commence à vraiment remonter dans mon estime et j'aime beaucoup ce qu'il devient. Parce que, en fait, oui, donc il est un peu paumé, c'est pour ça qu'il cherche et qu'il lit ce pad. Mais en fait, on le voit quand même qu'il réfléchit et qu'il prend ses aises avec l'épisode avec Ransom Et Billups, quand il fait son infiltration, en fait, il reprend l'esprit Starfleet et sa manière de diriger, et Ransom lui dit « Mais moi, je sais que vous êtes capable de ça. » Et du coup, ça lui met du baume au cœur et tout. Et non, je pense que... Ouais, il est un peu paumé, mais il va bien s'en sortir. Et je pense que ça lui va bien lui aller, la barbe aussi, en vrai.
Oui, bah on l'a vu dans le premier épisode, effectivement, ça... quand ouais, la barbe sera fournie...
Ça sera pas mal, hein.
Ouais, ça sera normal, mais moi, je suis comme Mariner, je ne cautionne pas. Voilà, il s'inspire de la vie de quelqu'un d'autre pour faire « je ne cautionne pas ».
Tu vois, je ne cautionne pas, mais je dis pas que c'est un point noir pour autant. Je pense que c'est important pour le personnage.
Je comprends ce que tu veux dire. Oui,
et
oui.
Aussi, tu vois, je pense que c'est la force, comme là, on parlait de la saison parce que j'ai tout rattrapé. Je trouve que c'est une force de Lower Decks, c'est que là, on en a la saison 5, et en fait, on se fait toujours pas chier. Pardonnez pour le terme. On s'embête toujours pas. On est toujours là à être content de l'épisode d'après, et les personnages, finalement, ils stagnent pas. Mariner, on avait trouvé qu'elle avait un peu stagné saison 3, je dirais, mais là, pareil, elle remonte tout, enfin, c'est trop bien.
Ouais, elle avait beaucoup stagné en saison 4, mais c'était volontaire.
Saison 4, pardon. Ouais.
C'était complètement volontaire, quand on voit la trajectoire qu'elle a finalement derrière.
Ouais, tout à fait.
Et oui, parce qu'elle a bien évolué dans cette saison 5, même si voilà, y a un petit retour en arrière dans cet épisode de cette semaine, mais là, pour le coup, c'est plutôt marrant. Alors, du coup, on va parler de l'épisode d'aujourd'hui, si vous voulez bien,
oui.
Sans spoiler. Du coup, Marie-Paul, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, cette semaine ?
Oh, bah, écoute, c'était plutôt sympathique. C'était marrant de voir. C'est des choses qui sont déjà vues et qu'on a déjà vues, mais c'était cool. Ça faisait bien aussi de revoir les trois nanas ensemble, vivre des aventures de leur côté sur une planète, avec tout ce qui se passe, avec les l'esprit, enfin la compétition un peu malgré elle entre deux d'entre elles. Enfin voilà, donc c'était cool et le pour une fois pas avoir mille j'allais dire plot mais mille intrigues différentes, c'était bien aussi et ça je trouve que ça se dilue moins du coup par rapport à d'autres épisodes où il y a genre 1, 2, 3 intrigues en même temps et on n'a pas le temps en fait de développer. Enfin, je trouve qu'on n'a pas le temps de s'attarder, s'accrocher, d'apprécier ce qui se passe. Donc là, c'était chouette. Je trouve que ça marche bien.
Ouais, c'est vrai que c'était un de mes points noirs aussi de cette saison, c'est que il y a pas mal de plots différents dans les épisodes et chacun des plots, la plupart en tout cas, mériterait d'avoir un épisode à part, entier, comme celui de cette semaine. Et tu as raison. Je pense que la façon dont cet épisode est écrit cette semaine participe à son succès parce qu'effectivement là on a une seule histoire pendant 25 minutes et on a le temps un peu de s'y attarder, de l'approfondir, de l'explorer et ça c'est vraiment appréciable. Et toi Léa ?
Je suis super d'accord avec vous. J'ai trouvé l'épisode trop chouette. Je trouve ça rigolo qu'on soit entre filles aujourd'hui, n'est-ce pas Guigui ? Bah, pour parler d'un épisode où c'est une aventure entre filles en fait dans l'épisode. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu des personnages et puis voilà. J'ai trouvé ça très cool.
Et big up à Giraffe qui a fait le cosplay le plus rapide de la Terre, je pense.
Bravo.
À qui ça ?
Giraffe qui a fait.
Ah, j'ai pas vu.
Regarde,
le jour même, elle a quasiment posté une photo, elle s'est fait un cosplay dans la foulée, quoi.
Ah ouais ? Bah, j'irai voir ça.
Ouais,
et non, je suis d'accord aussi avec vous sur l'histoire, sur tout l'épisode. J'ai trouvé ça très chouette, mais par contre, ça ralentit beaucoup le rythme. Et je pense qu'ils en feront pas beaucoup comme ça, parce que je pense pas
Dommage.
Que ça va plaire à la majorité
des
fans.
Non, et puis le truc, c'est que on sait que c'est la dernière saison, donc j'imagine que même si l'annonce elle est tombée en plein milieu de la... Tu disais, Guigui, en plein milieu de la prod de la saison, il y a moyen qu'ils soient obligés d'accélérer, effectivement... dans ce qui reste pour boucler la série, quoi.
Ok, donc ouais. Vous venez de m'apprendre que c'était la dernière saison.
Ah, tu savais pas ?
Non.
Ah bah voilà, il te reste plus que 3 épisodes à déguster.
Ah, je suis endeuillée, du coup. Bon bah, je vais finir l'épisode endeuillée ce soir-là.
On a tous le seum.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Bon, on va se consoler en rentrant dans la zone
spoiler.
Au moins,
ça finira sur une bonne note.
Ouais.
Red Alert !
Saleté d'opération de chirurgie esthétique. Je suis pas entré dans Starfleet pour m'occuper de soirées costumées.
Je suis sûre qu'on est très bien.
Je suis médecin. J'ai pas à faire des m**des comme ça.
Dimler 3 est une civilisation pré-industrielle. Ils doivent pas voir qui on est ni voir notre technologie.
Ouais, amusez-vous bien avec tout ce bétail. Ça va vraiment sentir la m**de.
Je suis particulièrement sensible aux odeurs.
Eh bien, tu peux rester ici si tu veux. Je suis sûre de pouvoir gérer tous les trucs scientifiques qui se présenteront.
Non, ça va être sympa d'aller faire cette mission de récupération entre filles. Vous êtes mes deux officiers scientifiques. Je vous ordonne de venir avec moi.
Je vais ignorer les inconvénients de la puanteur pour accomplir mon devoir.
Ouais, c'est ça, bien dit.
Je peux cautériser vos récepteurs olfactifs.
Ce serait vraiment apprécié.
Warning. Alors l'épisode 7, donc, qui s'appelle « Dilatation temporelle » en français, a été écrit par Andrew Muet et réalisé par Megan Lloyd. Elle réalise souvent les épisodes et en général, on n'est jamais déçu. Et cette fois-ci, c'est encore le cas. Et donc, du coup, on a un pré-générique assez classique avec le journal de bord de la capitaine Freeman qui fait son petit état des lieux. Alors, il y a encore une ouverture dimensionnelle qui s'est réalisée quelque part. Il y a un Enterprise D violet qui en est sorti et puis bon, qui a une petite aventure complètement chelou avec des clones de Tasha Yar ou je ne sais quoi et qui est retourné dans sa dimension. Mais qui a oublié quelque chose sur une planète qui s'appelle la planète Dilmer 3, et c'est une planète de prédistorsion, donc c'est à peu près, genre, ils en sont à peu près à l'équivalent de notre 19e siècle occidental, on va dire, ou même 18e, je ne sais
pas.
Enfin,
même non, parce que...
Ouais, enfin, ça ressemble un peu à un truc de Far West, bucolique un peu, je trouvais.
Moi, je sais pas, on dirait qu'ils ont même pas l'électricité, hein.
Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison, ils ont pas l'électricité, ouais. Ouais, si, t'as raison, parce que c'est... Il y a un moment où c'est Tendi qui crée son propre petit réseau d'électricité.
Mm-hmm.
Donc oui, c'est peut-être encore plus vieux que ça, quoi, effectivement. Et comme vous le disiez, le trio des filles sont envoyées sur la planète en mission d'infiltration, donc du coup, pour ne pas déroger à la directive première, bien sûr, où il ne faut pas contaminer la population avec de la technologie futuriste pour eux, et justement ne pas montrer qu'il y a des extraterrestres qui existent en dehors d'eux. Et du coup, Mariner, Tendi et Téline vont subir une petite opération cosmétique pour justement se fondre dans la masse. Et moi, j'aime vraiment bien ce genre de petit délire, parce que là, c'est vraiment une histoire classique de Star Trek, hein, comme on en a vu plein. Et j'ai beaucoup aimé justement avec Téline qui dit ouais, moi j'ai des problèmes au niveau des odeurs, bah oui, parce qu'effectivement les Vulcains sont assez sensibles par rapport à ça, et il y a Docteur Teana qui lui propose de lui cautériser justement le sens olfactif, et Téline qui dit que ça sera fort appréciable. Et en fait, donc bref, il y a quand même une petite particularité sur cette planète, ça aussi on l'a déjà vu dans Star Trek plusieurs fois, d'ailleurs Mariner je crois qu'elle les énumère, c'est que chaque seconde passée sur le Cerritos équivaut à 2 semaines sur la planète, alors ça fait beaucoup en fait. Et le problème c'est que donc ils sont envoyés sur cette mission, sur cette planète, pour aller chercher un objet que l'Enterprise D violet d'une autre dimension a oublié, donc pour éviter toute contamination, il faut le récupérer. Et le problème c'est qu'au moment de faire la téléportation, Boimler et Rutherford qui s'admirent leur nouvelle barbe et qui dégustent des cocktails très très bizarres avec
ça a l'air dégueulasse
avec des crevettes etc, et qui au moment de la téléportation, donc évidemment du point de vue de Cerritos, c'est je te téléporte, je te re-téléporte pour te récupérer, puisque une seconde égale à 2 semaines. Et tu te dis, bon, bah, en 2 semaines, ils ont le temps de faire la mission. Le problème, c'est qu'ils vont renverser leur cocktail dégueulasse sur la console, et le temps qu'ils ont pour la nettoyer, pour pouvoir les re-téléporter, il va se passer peut-être... si je fais le compte, elle reste
presque un
temps.
An. Elle c'est reste 10 mois.
Ouais. 10 mois.
Ah oui, c'est très frais dans ma tête. C'est,
il se passe 20-30 secondes. Alors du coup, c'est à la moitié d'une minute qu'ils mettent Rutherford. Alors, je n'ai pas chronométré pour voir si c'est correct. Mais du coup, ouais, ils mettent une demi-minute pour nettoyer la console et pour les rapatrier, quoi.
Pourtant, ça a l'air si long. Ressenti 10 mois pour eux aussi.
Ouais. C'est vrai, c'est clair. Oui, parce que t'as quand même le stress. Tu te dis, putain, ils n'ont pas le temps de réfléchir à comment régler le problème. Parce que s'ils partent rien qu'une minute chercher de l'aide ou je ne sais quoi, c'est catastrophique, là. Donc, ils sont obligés de lécher le truc pour récupérer. Enfin, ils font n'importe quoi et ça marche au bout de quelques secondes, quoi. Mais quelques secondes, effectivement, ça va ça sera équivalent à peu près 10 mois pour elles. Et ça va, elles leur en veulent pas trop.
Elles sont sympas,
franchement. Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du début de cet épisode justement ? Est-ce que vous attendiez aussi à une surprise comme on a eu dans cet épisode, Léa ?
En parlant de surprise, tu parles de Data ?
Bien sûr.
Je m'y attendais pas, mais j'étais très contente. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Au départ, en début d'épisode, je me disais « Mince, j'aurais préféré commenter l'épisode d'avant en podcast parce que je pensais qu'il allait pas du tout me plaire. » Et Et en fait, j'ai vite été accrochée dans le truc. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé entre les filles, parce qu'en fait, on s'est elles se sont retrouvées dans un endroit où elles n'ont pas trop le droit à la technologie, etc. Et elles ont dû réapprendre à vivre entre elles. Et ça fait très un peu Robinson Crusoe qui est perdu et qui doit se débrouiller, quoi. Et c'est très intéressant, je trouve, comme ils ont traité ça et comment les besoins de chacune étaient d'être à cet endroit-là. J'ai beaucoup aimé, avec Mariner qui voulait en fait juste se refaire une vie, et puis les filles en fait qui voulaient progresser dans la science. Donc j'ai trouvé ça super chouette, et puis, j'ai bien aimé quand Tandy a ramené Data à la vie, entre guillemets, en tout cas quand elle l'a alimenté en électricité. Et en fait, je trouvais que la scène ressemblait vachement à une scène de Frankenstein.
Ah oui.
Et j'ai trouvé ça super cool. Et puis, et voilà. Donc, non. Épisode très chouette. Leur déguisement de... C'était quoi le nom de la race?
Ah, j'ai pas retenu. Ok. On va dire que c'est des Dilmériens.
Les Dilmériens, on va dire. Et bah, je trouve le déguisement était trop chouette, le Caradian, il était trop sympa.
Ouais, il c'est simple, mais l'assemblage des couleurs,
ouais,
la palette de
fou.
Couleurs qui est choisie, avec les cornes cool, et tout, ça marche très très bien, ouais.
Ah, j'ai trouvé ça trop chouette. Et puis non, voilà, donc j'ai très très chouette épisode, ouais. 10 sur 10.
Et toi, Marie-Paul?
Non, alors je ne m'attendais pas effectivement à une telle surprise, à trouver un tel artefact. Je me suis dit, oh non, ils ont encore réussi à l'inviter. Putain.
Ben Spiner, il est vraiment partout. Hein.
Le never ending guest. Et puis, je trouvais que c'était pas indispensable, mais ça fonctionnait bien effectivement pour l'intrigue, pour le fait que Tandy, elle semble avoir besoin de progresser pour devenir donc première
officier scientifique de la passerelle,
ouais, officier en chef
de la passerelle scientifique. Elle a besoin d'une espèce de validation, reconnaissance qu'elle a pas forcément. Elle dit aussi qu'elle a son esprit de compétition qui ressort sans doute parce qu'elle est repassée sur Orion. Enfin, donc c'était marrant, c'était une bonne idée, c'était pas forcément indispensable, mais ça fonctionne bien au final avec leur cœur là, l'espèce de mec chelou qui
Snail.
Ouais, Snail, en plus, Snail, c'est un escargot, ils ont des têtes d'escargot avec leur truc.
Et, oui, il dit.
Et,
bien
et,
vu.
Bah ouais, et c'était marrant. C'était un peu lourd, mais en vrai, ça va avec le perso qui est complètement lourd et qui les espionne en permanence. Et c'était rigolo, ça faisait des petits... C'était bien de se poser, d'avoir une intrigue, comme je disais, ça prend un peu le temps de développer, même si, bien évidemment, ça va vite, parce que c'est quand même des épisodes de 25 minutes, mais je trouvais ça sympa. Et toi, comment t'as trouvé ça, Guigui? Tu t'y attendais?
Non, pas du tout. Non, c'était pour moi, voir Data, c'était une véritable surprise. Alors bon, moi, le truc, c'est que je les regarde en français avant de les regarder en VO, puisque je les regarde en famille, en fait, les épisodes. Alors je suis un peu déçu, bien sûr, que la voix française de Data, ce ne soit pas la même que dans la série de la nouvelle génération ou dans les films, parce que là, en ce moment, justement, avec ma famille, on est en train de revoir la nouvelle génération, on en est à la saison 3, d'ailleurs. Mais bon, j'ai regardé l'épisode en VO pour avoir la voix de Brent Spiner, et c'est vrai que ça le fait toujours bien d'avoir ces petites intonations. Enfin, c'était marrant, puis d'avoir un Data violet en plus qui demande, je sais pas, l'Enterprise chez vous, il est de quelle couleur?
C'était tellement drôle, ce il est gris neutre.
Pourquoi choisir gris alors que vous avez l'option? C'est si drôle, parce qu'en plus c'est vrai. Enfin.
Et ce que j'ai bien aimé moi sur Tandy, c'est en fait déjà dans la saison 3, dans le deuxième épisode le deck là, Crisis, c'est là où Tandy elle se rend compte, malgré elle, presque, qu'elle est ambitieuse, en fait. Et effectivement, comme tu le disais, Marie-Paul, le fait qu'elle soit retournée chez Orion et que, sur Orion, visiblement, la compétition est quelque chose qui est vraiment mis en valeur et qui est vraiment poussé. Et que même si elle lutte contre ça, elle a quand même ça en elle. Donc ça, plus le fait qu'elle soit ambitieuse et que, justement, son rêve, c'est d'être l'officier scientifique de la passerelle, forcément, ça la met, entre guillemets, en porte-à-faux avec son amitié, avec, encore une fois, malgré elle, avec Téline. Mais heureusement, après, les choses s'arrangent parce que, une fois qu'elles ont discuté... Alors, moi, ce que je me dis quand même, c'est qu'elles ont mis des longs mois avant de prendre cette discussion. discussion, je me dis quand même, c'est un peu bizarre qu'il soit passé autant de temps sans qu'elles en prennent conscience et qu'elles discutent, tout simplement. Parce que en plus de ça, pendant ce temps, il y a Mariner, moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est qu'elle veut avoir son Inner Light épisode à la Picard, parce qu'elle explique bien, d'ailleurs, ce qui arrive à Picard hein, dans un épisode de La Nouvelle Génération, où Picard, effectivement, sa conscience se trouve enfermée dans une espèce de machine de mémoire d'une civilisation perdue et vit intégralement une vie d'une personne et ça le marque et ça va changer profondément le personnage à partir de ce moment-là, c'est au milieu de la série à peu près, et du coup qu'elle veuille faire la même chose jusqu'à jouer de la flûte très mal, et sauf que le problème c'est qu'elle va faire tout de travers, elle va se retrouver en tôle, et du coup ça veut dire que en essayant de faire bien les choses, elle va faire de la mariner classique, c'est-à-dire foutre le bordel et se retrouver en tôle quoi. Et j'ai trouvé que c'était assez drôle du coup par rapport à ça.
Mais moi j'ai bien aimé ce côté de Mariner, c'était au début de cet épisode où elle dit « Oh, mais j'adore la science !» Ah non, putain, c'était l'épisode d'avant avec la base stellaire. mais en fait, on la revoit réapprécier Starfleet.
Mais parce que là, elle est contente de faire une mission d'infiltration.
Oui, c'est ça. Et en fait, on met plus confiance en elle. Et du coup, elle se sent validée pour continuer à faire ce qu'elle aime. Quoi, et c'est trop chouette. Et à côté de ça, en fait, les filles, les deux scientifiques, Tandy, elle, quand elle l'a dit à la fin de l'épisode, non, au tout début de l'épisode, pardon, quand elle dit j'ai toujours voulu ça depuis que je suis en âge de tenir un couteau dans mes mains. Et en fait, ça nous rappelle qu'elle est Orion et que quand elle veut quelque chose, il faut qu'elle l'ait en fait. Et on l'a vu quand elle était sur sa planète et qu'elle a fait ce qu'il fallait avant de revenir à Starfleet, mais. Et là qu'elle est revenue, elle va vouloir grimper les échelons et c'est chouette qu'elle puisse le faire. Mais j'ai eu super peur que ce soit juste Ellen qui passe parce que à la fin, même si Freeman allait lui offrir le poste, j'avais peur qu'elle dise non, en fait, je crois que je le mérite pas. Et j'ai eu trop peur qu'il se passe quelque chose comme ça et je suis très contente que ce soit pas arrivé ainsi.
Je suis d'accord avec toi parce que pour moi, c'est clair que les deux le méritaient amplement et que c'est pas plus mal, effectivement, de. Pourquoi pas en avoir deux, hein, tant qu'à faire. Et moi, ce que j'aime bien chez Tellin, c'est qu'elle n'a pas forcément le cheminement classique des Vulcains, c'est-à-dire, bon, à part dans Prodigy, hein, la Vulcaine de Prodigy à la rigueur, c'est qu'elle socialise finalement assez facilement, quoi. Et elle n'est pas contre chercher l'amitié de Tandy, justement. Et en fait, tout ce que fait Tellin dans l'épisode, ce que Tandy prend pour de la compétition de la part de Tellin, en fait, c'est Tellin qui cherche justement, au contraire, d'établir un contact, de passer un moment, d'intéresser Tandy pour qu'elle soit les deux ensemble, quoi. Quand elle fait son truc de marché, c'est intéressant, quoi.
Et en plus, je me demande si elle n'a pas compris que c'était la manière de faire le lien avec Tandy, parce que Rutherford lui a dit quelques épisodes auparavant en lui disant « Mais nous, avec Tandy, on aime bien réparer ça et faire ça ensemble. » Et du coup, elle voulait peut-être faire ce potager pour le faire avec Tandy et qu'elle offre. C'est faire le marché ensemble parce qu'elle croyait avoir compris que c'était comme ça le langage d'amour de Tandy et je trouve ça super chouette. Mais après, Tellin, on savait que c'était pas une Vulcaine entre guillemets normale dans le sens où si elle a été virée de son vaisseau, c'est parce que justement elle voulait pas trop suivre les principes vulcains quoi. Mais je trouve ça sympa d'avoir une Vulcaine comme ça.
Ouais, non, et puis l'actrice, aussi bien en français qu'en VO d'ailleurs, elles sont fantastiques quoi. Elles arrivent à très bien faire passer tout le caractère Vulcain de retenue. Mais avec une pointe de sarcasme des fois, enfin de malice.
Oui. De malice discrète. Moi, je regarde pas en VO, mais effectivement, la VF, elle est incroyable. L'actrice qui joue Tellin, elle la joue très très bien.
Si vous aimez le jeu de l'actrice, regardez Crazy Ex-Girlfriend, elle est trop bien dedans.
Ok.
Guigui, tu te posais la question de pourquoi est-ce qu'elles ont mis aussi longtemps à se parler. C'est juste que Tandy, elle est dans la souffrance et elle veut se dépasser, elle dort pas, elle est centrée sur elle-même, elle voit plus rien autre qu'il faut qu'elle réussisse à tout prix. Et donc la communication est impossible, elle n'envisage même pas une seule seconde, en fait, étant donné qu'elle est dans cette posture-là. Que Tellin, elle soit dans une posture totalement différente et de fait, voilà.
Je suis d'accord avec ça, mais en réalité, ça peut passer, on va dire, quelques jours, voire grand max quelques semaines, mais quelques mois. C'est étrange que Tellin ou même Mariner se soit pas dit, oh là là, Tandy, il y a un souci.
Déjà, Mariner, elle a passé, je pense, 6 mois en prison, oui. En tout. Déjà, elle a dit pendant une fois, elle a dit c'était 2 mois, mais la deuxième fois qu'elle était en prison, je sais pas pendant combien de temps, mais ça avait l'air assez long aussi. Et En fait, Tandy, elle s'est enfermée. J'ai trouvé un peu à la fois la référence à Frankenstein, mais je trouvais aussi quand elle s'enfermait dans son truc toute seule à parler, ça faisait très Shining. Et en fait, elle était dans cette espèce de psychose qui fait que quand Téline faisait le premier pas, elle croyait que Téline venait se vanter. Et du coup, elle envisageait même pas que ce soit possible qu'elle veuille lui parler, et elle voulait même pas du contact, mais en fait, c'est elle-même qui s'en est bloquée. Elle s'est mise dans une espèce de carapace de folie dans un sens, quoi. Enfin, quand je dis la folie, c'est la folie parce que je parle de Shining, hein. C'est cette espèce de bulle de psychose qu'elle s'est créée toute seule, et avec Data qui reste un androïde qui lui parle, mais du coup quand il lui dit quelque chose qu'elle veut pas, elle dit de toute façon t'es qu'un androïde, t'es qu'une tête, et puis voilà, elle passe à autre chose. Et
c'est vrai que c'est pas Data qui va pouvoir l'aider à sortir de cet état là c'est clair.
Bah ouais, c'est sûr. Mais il a essayé en plus, hein.
Mais il a essayé, mais voilà, bah comme c'est Data, hein, il essaye toujours de...
Mais au moins, il a croqué les cordes, tu vois.
Oui, ça, c'était très drôle, ça. Oui, j'ai vu le lieutenant Worf le faire, je peux le faire aussi. Ouais, c'était assez drôle, ça. Ouais, c'est vrai que il y avait plein de petits moments marrants, mais le fait de se poser... Franchement, moi, c'est que des épisodes comme ça qui me faudraient, quoi. Tu mets 20 épisodes de Lower Decks par saison... Que des épisodes comme ça, moi je suis
super mais ouais, ravie. Moi je suis d'accord, hein. Mais moi tu me remets encore 15 saisons de Lower Decks, il n'y a aucun problème. Hein. Mais sinon, qu'est-ce que vous pensez de la barbe de Rutherford?
Bah, elle est un peu dégueulasse.
Quoi?
Actuellement.
Je veux dire, attends, le fait... moi j'aime bien.
C'est parce que t'es hyper poilu que tu dis ça. Je veux dire, pense aux personnes qui sont moins poilues et qui ont plus de mal à... Moi j'ai vu avec
une
personne
comme ça. Oui, toi c'est parce que t'as une barbe fournie.
Voilà.
Ouais, mais ça fait longtemps. Mais non, mais ouais, c'est... le fait qu'elle soit un peu... Justement, c'est ça le truc, c'est qu'avec Rutherford, il a zéro problème avec sa barbe. Ça me faisait un peu penser à Jordi, la Forge, qui à un moment donné aussi s'est poussé la barbe le temps de 2 ou 3 épisodes. Et aussi une toute petite barbe comme ça, toute mignonne. Puis Boimler, oui, on sent que... C'est un peu épars, c'est la première fois qu'il se laisse pousser les trucs, du coup les poils ils sont un peu, enfin ils sont pas, comme l'acteur Jack Quaid, hein, quand il se laisse pousser la barbe, tu vois que c'est pas... Mm-hmm.
Non mais moi c'est les barbes comme ça que j'aime bien.
C'est vrai. Il est jeune,
hyper charmant.
C'est comme ça au début, puis après plus tu vieillis, plus pire c'est. Et après, tu regrettes.
Pense à l'impact psychologique que ça peut avoir sur le fait que ton pote, il ait la barbe qui pousse hyper vite, hyper bien. Alors
ouais,
que toi,
ouais,
ouais,
ça, j'y ai pensé, ça m'a fait rigoler.
Ah oui, bah c'est clair.
Ça aide
clair.
Pas son syndrome, sa confiance en lui, quoi.
Mais en plus, Rutherford, là, c'est un androïde et puis il est tout goofy, alors on nous fait croire qu'il est pas charmant, mais quand on revoit les épisodes où son ancien lui, quand il avait pas son implant, ça se voit que il était très charmant, quoi. C'est le mec qui se la pète. Ouais, qui est beau gosse, sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord.
Bah il a la tchatche, quoi.
Oui, voilà, c'est un beau parleur. C'est exactement. Et du coup tu te rends compte de son potentiel entre guillemets. Et du coup le voir à côté de Boimler qui essaye de faire le beau gosse, c'est encore plus rigolo. Et surtout que Rutherford de maintenant, il sait même pas son potentiel entre guillemets de charmeur. Il en a aucune idée lui.
C'est vrai. Donc en conclusion, on peut dire que c'était un très bon épisode.
Oh oui.
Ouais, c'était cool. Ouais.
Je pense qu'il fait partie de mon top 3 de la saison pour le moment.
Ouais, moi aussi, je pense. Ouais, je pense aussi. Hein. Est-ce que vous avez des pronostics pour le final? Du coup, toi, Léa, que tu viens d'apprendre que c'est la fin de la série, qu'est-ce que tu peux imaginer?
Je vous laisse en discuter en premier et je passe en dernière. Comme ça, j'ai le temps de cogiter.
Marie-Paul, je sais pas si on n'avait pas déjà parlé dans un podcast précédent, tous les deux? Non? Eh ben, du coup, je te pose la question alors. Est-ce que tu as des pronostics pour le final?
Si ça n'avait pas été arrêté en cours de route, j'aurais pu essayer, mais là, je me pose de questions, en fait. Il y a forcément un truc qui va se passer avec les ouvertures dimensionnelles, mais quoi Non, franchement, j'ai pas réfléchi jusque-là, quoi. Parce que toi, j'imagine que tu as déjà écrit et réécrit 50 fois dans ta tête, non?
Pas tant que ça, mais il me semble que dans un épisode précédent, il est suggéré que les failles ne sont pas fortuites, elles sont l'œuvre de quelqu'un. Alors, je ne sais
Est-ce
pas
que
du
ce
tout.
Serait un robot,
genre un Jimus ou un truc comme ça, un ancien ennemi de Lower Decks qui reviendrait pour faire ça, je ne sais pas. J'espère pas, parce que je préférerais que ce soit un truc nouveau. Mais par contre, oui, comme on l'a déjà dit, je pense que l'équipage qu'on a vu dans l'épisode 1 pourrait potentiellement revenir. Comme Manu disait, la base Stellar 80,
Ah oui, j'espère qu'elle reviendra.
Je pense qu'elle reviendra parce qu'elle est importante pour Freeman. Et en plus de ça, il suffit qu'on ait besoin de technologies anciennes. Bah, du coup, c'est le meilleur endroit pour aller chercher ça. Donc ouais, je pense qu'il y aura un peu comme ils ont fait, c'est-à-dire la saison précédente, des rappels de tous les épisodes de la saison pour le grand final, quoi.
Je pense que ce sera ça, un épisode un peu choral, où on reverra tous les personnages assez importants. Je
pense sûrement qu'ils faire l'épisode 9 et 10, quoi.
Je pense qu'ils vont faire un... revenir Beurre d'Amande pour la blague, encore une fois. Pour la fin, elle va venir à un moment donné.
Ouais, le mariage d'Agimus et Beurre d'Amande.
Manu avait marrant. Une théorie intéressante, c'est que Téline ne serait pas la Téline d'origine, elle serait la Téline alternative.
Ouais, il y a Clara qui avait dit ça aussi sur le Discord.
Ah oui, parce qu'une fois, à la fin de l'épisode, elle a dit le mot de l'autre Téline, et puis après elle a dit « mais non, c'était une blague et tout ».
Ouais, donc, moi, je pense
c'est peut-être
pas
pour
parce
ça
que
qu'on la voit pas assez, mais c'est... je sais pas.
J'aurais pu accepter la théorie avant de voir l'épisode de cette semaine, mais maintenant que j'ai vu l'épisode de cette semaine, ça n'aurait pas de sens que ce soit une autre Téline que celle qu'on suit pour cet épisode-là. Quoi. La portée émotionnelle, elle serait un peu gâchée.
Bah, ou alors, vrai. Juste, ils nous l'ont échangé pour toujours, et puis c'est pas grave, tu vois, mais...
Du coup, ça, j'y crois plus trop, mais ouais, on verra bien. Il reste plus que 3 épisodes, dont un, on va dire... attendez, ouais, donc 8, 9...
mais
10,
attendez,
ouais, c'est ça. Oui.
Buen Amigo, il n'est pas encore arrêté ? Si ?
Mais il est mort, surtout.
Ah mince, j'avais oublié.
Il est mort en fin de saison 3.
Puis là, j'avais complètement oublié.
Il s'est pris un USS Texas en pleine frate. Malgré qu'on ait essayé de lui dire que ce n'est pas une bonne chose de le faire, bah voilà.
Ah, j'avais oublié. Bah, vous voyez, j'en suis de nouveau à la saison 3, donc je vais bientôt le revoir.
Tu vas bientôt le revoir, tout à fait.
Ah, ça va me faire plaisir de le voir mourir alors. Trop bien.
Ok. Pour conclure, on va faire une petite promo ou reco. Qu'est-ce que tu aurais à promouvoir ou recommander, Léa ?
Rien.
Ah, ok. Bah, c'est possible, hein. Tu peux ne rien promouvoir.
Si, je vous recommande la série Arcane. Ah, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler.
Fait.
Mais voilà, j'ai terminé la saison 2 et c'est fabuleux. Donc.
Eh bien, tout à fait d'accord avec toi. J'ai terminé la saison 2 aussi. J'en ai parlé la semaine dernière. Je suis super fan. J'adore. Et moi, personnellement, je vous recommande le podcast du bonus du label Bonus Tracks Happy Hour parce qu'ils ont interviewé le réalisateur-producteur de Arcane et ils lui ont posé quelques questions. Ils nous ont même demandé est-ce que vous avez des questions qu'on pourrait leur poser. Donc, moi, j'ai soumis ma petite question. Maintenant, j'ai hâte d'écouter le podcast pour savoir ce qu'il en est parce que j'ai appris qu'il y aura des suites/ spin-off 3 même d'ailleurs.
Ah, je suis pas étonnée.
Et oui, ça s'y prête, l'univers s'y prête très bien et on sent que de toute façon, ils ont encore plein de choses merveilleuses à faire avec. Donc ouais, j'ai assez hâte.
Et du coup, tu as commencé à jouer à League of Legends ?
Non, pas du tout ça. Alors, ça m'intéresse pas du tout par contre.
Mince.
Pourquoi toi, oui, tu y joues ?
Oui, moi j'y joue depuis 2014, ça fait 10 ans que j'y joue.
Ah oui.
Ah oui, moi c'est une grande histoire d'amour avec
comme
ce jeu
mon
vidéo.
Frère. Mon frère aussi, il est trop à fond, mais je suis même pas sûre qu'il ait vu Arcane par contre.
Mais en plus, le gros problème, c'est que ce jeu, c'est comme une drogue et on sait pas pourquoi. Parce que même tu l'arrêtes pendant 2 ans, et ben un jour tu vas y remettre les pieds.
Bah ouais, c'est pareil.
Mais tu sais pas pourquoi.
Hein. Ouais, c'est pareil.
Oui, oui, c'est ça. Pour ceux qui ont joué à WoW, c'est la même chose.
C'est un côté addictif. C'est un peu un doudou, quoi.
C'est ça. C'est dans la répétitivité des choses qu'on connaît bien.
Pour avoir vu à peu près à quoi ressemble le jeu, qui ça n'a rien à voir avec la série télé, je me dis qu'à l'issue de toutes les séries qu'ils vont nous faire, il y aura effectivement une histoire qui ressemblera, qui permettra d'avoir un truc qui se passe comme dans le jeu, quoi. Ces histoires d'arènes et de combats, etc. Je
non,
pense qu'ils sont
pas trop,
en train de...
J'ai pas du tout... Je dois attendre la fin du mois pour voir la saison 2.
Ah, mais ça, c'est une théorie perso.
Ah
hein,
non, ça n'a rien à voir avec la série, ça spoil pas du
ça
tout.
Ça n'a rien à voir, mais moi, je pense que, simplement, à l'issue de toutes les séries qu'ils feront, il y aura quelque chose qui ressemblera à la mécanique de jeu. Pour l'instant,
ouais,
c'est pas du
pas
tout
pensé,
le cas.
Mais c'est une bonne idée.
Bah, je me dis qu'il faut... C'est un peu comme, par exemple, les films Marvel... pour que tu aies un film vengeur, eh ben, il faut avoir présenté tous les personnages avant qu'ils se réunissent. Ben, là, c'est un peu la même chose, je pense, tu vois, même si là, c'est une comparaison un peu pétée. Mais voilà, il faut préparer le terrain pour rendre ça possible. Mais de toute façon, ça se regarde très bien sans ça. Il y a un début, un milieu, une fin. C'est assez époustouflant en termes d'écriture et d'animation, de musique, enfin d'acting, de tout. Quoi. C'est vraiment c'est une grande réussite, cette série. Ça fait bien plaisir. Et toi, Marie-Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes ou est-ce que tu peux nous promouvoir ? Est-ce que tu as un autre livre qui va sortir, par exemple ?
Alors oui, mais il sortira fin janvier, donc je pense que je vous en parlerai à ce moment-là. personne continue à vivre sa ville et elle est en, le livre est en sélection pour le prix Patrimoine d'Angoulême. Donc ça, c'est
Bravo.
Le festival d'Angoulême qui est donc Bravo. Le festival de la bande dessinée en France. Donc ça, c'est super cool. Même si on gagne pas, je suis super fière que ça fasse partie de la sélection. Non, moi, le roco que j'ai envie de partager ce soir, ça va être la saison 2 de Bad Sisters sur Apple TV qui a commencé depuis quelques épisodes. Et j'étais assez dubitative sur le fait de faire une deuxième saison, puisque la première saison pouvait tout à fait se conclure, se terminer là.
Et t'as en fait, de quoi
Bad Sisters, t'as pas vu, c'est génial.
Moi
c'est
non plus, j'ai pas
c'est
vu.
une fratrie. Je sais pas comment. C'est cinq sœurs. Ça se passe en Irlande. Elles sont assez soudées, mais il y en a une qui est mariée à un espèce de grand connard absolument insupportable que tout le monde a envie de gifler, voire de buter. Et il se passe des choses dans cette saison qui se terminent pas très bien pour certaines personnes, dont le grand connard. Et ça parle du lien de la famille, du soutien, ça parle d'amour, d'amitié, de la mort, de la transmission. C'est drôle aussi malgré tout. C'est très chouette. Et là donc une deuxième saison. Qui commence pas très très longtemps, il y a genre un trou de un an à peu près entre la première et la deuxième saison, et on reprend avec les cinq sœurs et il se passe d'autres choses et en fait bah c'est une des actrices qui joue les sœurs, qui c'est Sharon Hogarth qui écrit et produit et joue, et franchement les gens qui l'ont vu apprécient, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui l'ait regardé, et moi je en plus en ayant vécu en Irlande forcément j'ai double ça
bien
double,
sûr, ouais.
double cœur mais voilà c'est mais il faut aimer effectivement l'univers un peu avec de l'humour un peu noir et tout, mais c'est pas que ça, attention hein, c'est ça en fait juste un peu partie quoi.
Je me suis donné comme mission de faire comme Manu, c'est-à-dire d'écumer tout le catalogue Apple TV, donc un jour ou l'autre ça va tomber, c'est sûr.
Moi, il faut que je reprenne l'abonnement Apple TV, mais moi, j'ai encore jamais été déçue.
Ah, il y a des trucs un peu moins bien que d'autres, quand même. Genre,
comme quoi que t'as pas aimé ?
La série de SF qu'ils ont tenté de faire avec des aliens, ça, le pitch, ça partait super invasion,
oui,
ça partait
avec
super... Et c'était pas bien.
On a arrêté au premier, ouais.
Ils nous vendent ça. Moi, j'arrivais toute la première saison, ils nous vendent Sam Neill en disant « Ouais !» Et en fait, Sam Neill...
j'ai arrêté au premier, je me suis dit non, ça sera pas pour moi.
Et il y avait des trucs super intéressants, et il y a une espèce de c'est quoi le titre du livre de H.G. Wells, l'invasion ? Non,
tu parles de quoi ? De la guerre des mondes ?
La guerre des mondes, voilà, il y a un peu un aspect guerre des mondes, mais c'est... j'ai essayé la deuxième saison et c'est raté, quoi, ça va pas du tout.
Donc c'était la non-recours.
Il y avait... Attends, mais il y en a d'autres, hein. il y a au moins 3 ou 4 autres séries. L'intérêt pour moi, entre autres en ce moment d'Apple TV, c'est qu'il y a des séries en espagnol qui sont pas très bien, mais comme je réapprends l'espagnol, je me mate tout le catalogue en espagnol. Et du coup...
Et ça revient vite ?
Doucement, mais ça va.
Bravo.
Donc voilà, donc Bad Sisters, à regarder.
C'est noté. Bah, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, bah, vous pouvez nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, comme par exemple Apple Podcast, Podcast Addict ou que sais-je. Et que vous pouvez donc nous retrouver sur notre Discord, notre page Facebook et notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Et bien sûr, vous l'aurez compris, sur Blue Sky, donc le Blue Sky du Cadran Pop, on y sera. On vous attend sur ce. Longue vie et tout plein de prospérité. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Thank you. Bonus.
Trax.
Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes? Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des Légendes. Avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Geralt de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label.
Bonus.